Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter mon travail de thèse que je mène donc à Paris 7. J'ai un changement de lieu de recherche. J'étais au CEDET à Orléans et là, je passe en suivant mon directeur au LADIS à Paris 7, qui est donc un laboratoire dynamique sociale et recomposition des espaces. Et l'intitulé de ma thèse a aussi un petit peu changé par rapport au programme. C'est-à-dire que ce qui était le titre est devenu le sous-titre, et le titre introduit un cadre théorique qui est cette question de l'incertitude que j'emprunte au philosophe pragmatiste américain John Dewey, et notamment à son livre La quête de certitude. Et donc, je vais vous présenter d'abord le contexte de recherche. Moi aussi, j'ai mis une carte de remembrement. C'est aussi en Bretagne, pas très loin de Rennes aussi. Voilà, et donc je vais d'abord vous présenter le problème et le cadre théorique et les hypothèses rapidement. Donc ma thèse est une thèse interdisciplinaire de SHS, de sciences humaines et sociales, dans laquelle je croise des méthodologies issues de l'histoire des sciences et des techniques, de la géographie environnementale et de la philosophie, plus précisément de la philosophie de la connaissance. Mon problème central, c'est celui de la question de la relation entre certitude et incertitude dans les sciences et les pratiques de l'agriculture. Et donc, dans la manière dont on va articuler la production de connaissances dans une situation d'expérience et la manière d'y agir. Alors, pour le dire très vite sur ce cadre théorique, ce que Dewey propose dans cet ouvrage, donc, ouvrage qui sert de fil rouge théorique à mon travail, c'est une généalogie de l'idée de certitude depuis la pensée grecque, c'est-à-dire depuis un monde social dans lequel on a une séparation radicale entre de purs faiseurs, qui sont les esclaves, et de purs penseurs, qui seraient les citoyens et les philosophes. Et à travers cette généalogie, il remet en cause l'évidence philosophique classique, finalement, de la distinction entre théorie et pratique, entre d'une part un domaine qui serait abstrait, désirable, fixe et rassurant, et qui serait celui de la certitude théorique, et puis d'autre part un domaine qui est concret, repoussant, processuel, chaotique, et qui est celui-là de l'incertitude pratique. Et on retrouve en filigrane, et c'est là où ça rejoint la question d'une épistémologie de l'agronomie, entre autres, et des sciences du vivant, on retrouve là une distinction entre deux manières d'approcher les sciences, et en particulier les sciences du vivant, qui ont été classiquement isolées par un philosophe anglais dans un texte qui s'appelle Des sciences inductives, le philosophe s'appelle Whewell, au XIXe siècle, et il distingue entre d'une part ce qu'il appelle les sciences nomologiques, donc là je rejoins la présentation d'Osvaldo d'hier, on va creuser un petit peu ensuite, dont l'objectif est de révéler les lois de l'univers, c'est-à-dire des lois, donc des explications qui sont vraies en tout lieu et en tout temps, qui sont universellement vraies, et puis d'autre part ce qu'il appelle les sciences historiques, et ce que le philosophe Baptiste Morisot appelle, et je trouve le terme plus intéressant, c'est un peu barbare, mais il appelle ça des sciences idiopathiques, et littéralement ça veut dire des sciences de ce qui ne se produit qu'une seule fois. Et donc finalement plusieurs philosophes contemporains de la biologie, depuis Jean Gaillon jusqu'à Morisot en passant par Canguilhem, considèrent que ces sciences historiques inductives décrivent plus adéquatement finalement le type de connaissances que peuvent produire les sciences du vivant du fait du caractère intrinsèquement historique, relationnel et dynamique des phénomènes vivants. Donc pour le dire rapidement, mon travail de recherche entend donc, à partir de ce problème de la certitude, montrer en quoi la modernisation agricole, on y arrive, consiste aussi en un saut épistémologique et en des décisions épistémologiques qui sont appelées, ça c'est mon hypothèse, par l'extension à l'agriculture d'un imaginaire de la standardisation industrielle, de ce que le philosophe Pierre Musso a récemment appelé la religion industrielle, et qui font, cet imaginaire fait passer finalement l'ambition explicative des connaissances agronomiques depuis une stabilisation située vers une certitude générale, c'est-à-dire depuis l'historique vers le nomologique. Et il me semble que c'est de ce passage, notamment, que naissent toute une série de problèmes épistémologiques, écologiques et politiques, relatifs à cet écart finalement entre le domaine des certitudes des lois agronomiques et la variabilité de l'expérience pratique. Et là, je me réfère notamment à toute une tradition de la sociologie rurale des années 70 et de la recherche-action, notamment à Michel Salmona, qui a extrêmement bien isolé ces questions-là, en montrant finalement l'écart et les problèmes de souffrance que ça pouvait poser chez les agriculteurs entre la certitude des prescriptions techniques et l'incertitude des situations, ce qu'elle appelle des situations problèmes. Et elle prend notamment un exemple sur le diagnostic des chaleurs des vaches qui est assez génial. J'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Et c'est donc dans un second temps, une fois voilà, ce cadre épistémologique de la modernisation un peu posé, que je m'efforce de comprendre en quoi des approches agroécologiques, parmi lesquelles l'agroforesterie, finalement, propose une sorte de rupture avec cette quête de certitude pour renouer avec des formes d'enquête situées, c'est-à-dire avec des formes de mise en lien toujours à stabiliser entre la connaissance d'une situation et la manière d'y agir. Alors, bon, c'est vraiment très dense, je suis désolé, hein, mais c'est... je fais 5 minutes, c'est vraiment pas long, quoi. Donc, je vous explique très vite en quoi... Je dis très vite trop souvent pour que ce soit crédible. Mais je vais vous exposer rapidement comment cette problématique se ventile sur trois axes de recherche. Donc, un premier axe de recherche qui consiste à faire la généalogie historique, donc là c'est vraiment un travail d'histoire des sciences et des techniques, du cadre épistémologique de la modernisation agricole. Alors je m'appuie sur des travaux notamment de Christophe Bonneuil, de Nathalie Jass, de toute une série d'historiens français qui ont commencé à travailler là-dessus récemment, parce que jusqu'aux années 2010, l'agronomie et l'histoire et la philosophie de l'agronomie étaient un peu un domaine réservé des agronomes, ce qui pose toute une série de problèmes. Et donc, j'essaie de mettre en évidence ce que j'appelle une épistémologie nomologico-prescriptive, c'est-à-dire qu'elle articule la production de lois générales avec des prescriptions autoritaires des pratiques fondées sur ces lois générales. Et le corollaire pratique de cette épistémologie, que je nomme agroformation, en référence au terme de terraformation pour ceux qui lisent de la science-fiction. C'est-à-dire que. C'est-à-dire la transformation et la simplification extensive des agroécosystèmes pour finalement que les connaissances nomologiques de la modernisation puissent s'y vérifier. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, il consiste à mettre en évidence ce que j'appelle en référence à Castoriadis, l'imaginaire épistémologique et l'imaginaire pratique de la modernisation agricole, qui sont respectivement basés sur la certitude, et ça c'est issu d'un imaginaire des sciences modernes qui a été aussi bien étudié par l'histoire et la philosophie des sciences, et sur la maîtrise, qui a plutôt une généalogie dans l'imaginaire industriel. Et ce qui m'intéresse, ce sont les formes singulières que prennent ces imaginaires dans le monde agricole. Et le troisième axe, et je vais devoir du coup m'arrêter là, c'est un travail basé sur des enquêtes de terrain, qui entend mettre en évidence les déplacements à l'intérieur de ces imaginaires qui sont opérés par des agroécologiques que je nomme radicales. Alors pourquoi radicales? C'est-à-dire que j'entends par là qu'elles rompent franchement avec le cadre épistémologique et avec le double imaginaire de la modernisation. Et qui permettent finalement l'institution, enfin qui cherchent en tout cas à instituer de nouveaux imaginaires agricoles et alimentaires. Et c'est depuis cette mise en travail des catégories, depuis des pratiques comme l'agroforesterie, la viticulture naturelle ou la permaculture, qui constituent les trois terrains que je vais vous présenter après, mais que je n'ai pas avoir le temps de vous présenter, et que j'ai désigné dans un article récent comme une pratique des lisières de l'imaginaire agricole. C'est-à-dire que c'est une manière finalement de venir travailler des lignes de crête, ce qu'en philosophie on appelle souvent des dualismes, c'est-à-dire des manières de composer et de diviser le monde entre des choses qui seraient irréconciliables, qui seraient intrinsèquement distinctes, ontologiquement distinctes. Par exemple, la forêt et le champ, ou le sauvage et le cultivé, le spontané et le dirigé, etc. Et donc, le symptôme de ça étant le fait qu'il y a une récurrence de descriptions par des oxymores dans les pratiques agroécologiques. On parle de forêt-jardin, d'agriculture sauvage chez Fukuoka. Enfin, en permaculture notamment, il y a beaucoup d'oxymores comme ça, et il me semble qu'elles sont le symptôme justement de ces pratiques qui viennent mettre en question des distinctions qui composaient l'imaginaire de la modernisation, et que là, en fracturant ces dualismes, on ouvre aussi des possibilités de redescription, et que cette ouverture des imaginaires est aussi, et c'est là à mon sens que ça peut être intéressant, une libération de puissance d'agir et de penser susceptible de déboucher à la fois en termes de recherche et en termes de pratiques agricoles. Voilà, bon, bah, j'ai pas du tout dit tout ce que je voulais dire, mais on va en parler dans la discussion. Merci.
Bon, te dire que j'ai tout compris, ce serait mentir. Tu m'as complètement perdu, à vrai dire. J'étais sur un niveau que je ne maîtrise absolument pas. Du coup, ma seule interrogation, c'est cette fameuse vulgarisation. Aujourd'hui, dans la salle, tu as des gens comme moi, des techniciens. Il y avait tout à l'heure des élèves, sincèrement, heureusement, qui sont partis. Ils se seraient demandé sur quelle planète tu vivais. Donc, à qui s'adressent évidemment tes travaux? Quels vont être, c'est peut-être quelque chose que tu devrais présenter après, quelles vont être les résonances concrètes à l'échelle du monde agricole? Et comment tu vas simplifier ton discours? Parce que je suis persuadé que tes travaux sont passionnants, mais je n'ai pas eu le temps de les assimiler. Et donc, comment tu vas effectivement vulgariser la somme qui semble très conséquente d'apports théoriques que tu proposes pour pouvoir en faire quelque chose par rapport à des techniciens de terrain comme nous, voire des exploitants agricoles, enfin le monde agricole en général?
Oui, tout à fait. Non, mais c'est une très bonne question. Alors, effectivement, là, l'enjeu, c'était de présenter des problématiques de recherche. Donc, du coup, forcément, bah, je présente un cadre théorique et des choses qui sont effectivement un peu absconses. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Enfin, voilà, un peu. Bon, bref, abscons. Ça ne s'accorde pas. Difficile, voilà. Et après, justement, donc, je voulais présenter aussi les publications. À l'intérieur de mes publications, j'essaye justement de ne pas faire que des articles scientifiques et de travailler avec des revues dans lesquelles voilà, d'inventer des formes de récit, des formes de restitution de la recherche qui sortent des cadres académiques traditionnels. Voilà. L'idée, ce n'est pas de publier dans des revues de philo, dans des revues de philo des sciences, mais c'est de discuter aussi bah, avec des agronomes, avec des chercheurs en histoire, enfin, voilà, de convoquer cette interdisciplinarité pour essayer de redécrire ensemble les situations. Et une des choses aussi au niveau méthodologique, c'est que j'essaie autant que possible, et là il y a un article qui va paraître normalement à la fin de l'année, là, qui est coécrit avec un de mes terrains, avec la personne, l'agricultrice qui s'occupe d'un de mes terrains. Donc il y a aussi cette idée d'essayer de co-construire la réflexion et la mise en récit avec les acteurs, et pas de proposer une sorte de... Je sais que ça pouvait avoir l'air de ça, mais une sorte de truc très, très vertical, très, très, très surplombant sur les situations. Donc il y a ça, et puis ensuite, j'explore aussi sur le terrain, sur le vin naturel, des formes de restitution plus artistiques, avec des explorations de recherche-création, et notamment une exposition qui va avoir lieu en janvier à la Scène nationale d'Orléans, dans la galerie de la Scène nationale, où là, on essaye d'explorer des restitutions plus sensibles. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler avec des levures sur le mode de la microbiologie et de l'écoute des cuves, voilà. Essayer de rendre sensibles ces choses-là aussi et les déplacements qui sont opérés sur d'autres modes que celui de l'épistémologie. Voilà, j'espère que vous avez compris.
Pour prolonger un petit peu sur cette thématique-là, nous, on travaille au Gerdal avec l'analyse des systèmes de normes, c'est-à-dire qu'on travaille sur, dans le discours, qu'est-ce qui est lié à quoi. Donc, ça me fait un peu penser à ce que vous disiez sur les oxymores. Donc, en fait, on identifie les oppositions ou les liaisons entre des mots ou entre des idées. Et donc, et ça a été travaillé très bien avec des agronomes parce que c'est très utile dans le conseil, en fait. Comment les agriculteurs font des associations? C'est-à-dire, j'associe par exemple la culture de l'herbe avec, je ne sais pas, beaucoup de temps de travail. Enfin, voilà. Donc ça, cette association-là, il faut que les conseillers soient conscients que l'agriculteur fait cette association pour pouvoir ensuite lui dire, bon, ok, toi tu penses que la culture de l'herbe, c'est beaucoup de travail, ça va pas prendre beaucoup de temps, mais regarde autour de toi, il y a des agriculteurs qui disent pas ça. Ils disent autre chose sur la culture de l'herbe. Donc je pense que ces oxymores-là dont tu parles, ça peut être très intéressant dans un groupe d'agriculteurs, dans un groupe de pairs, pour justement montrer que toi, tu penses que l'arbre, ou je ne sais rien, une pratique, c'est plutôt négatif, ou ça, en tout cas, ça engendre beaucoup de désagréments sur ta pratique de travail, etc. Mais regarde autour de toi, voilà, en fait, il y a d'autres personnes qui pensent autrement, et l'arbre, il est pensé autrement. Et donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant que tu identifies, en fait, pour le conseil, quelles sont ces associations qui sont plutôt positives et qui peuvent vraiment aider les agriculteurs à se dire, ah ouais, en fait, c'est vrai, ça apporte d'autres choses.
Ouais, merci pour cette remarque. Effectivement, j'avais pas pensé à cette finalité-là. Mais oui, moi, ce qui m'intéresse dans cet usage des oxymores, c'est que justement, ça, à mon sens, c'est une façon de fracturer les descriptions qui ont une apparence. Et ça, et en fait, là, c'est aussi une des caractéristiques de la modernisation que d'avoir mis en place un récit d'elle-même complètement nécessaire. Il n'y a que cette direction qui est possible, et il n'y a que cette description du monde qui est possible. Et le fait de venir mettre en tension ça par des termes comme ça qui sont très, très brefs, très, qui encapsulent beaucoup de choses, je trouve effectivement que voilà, ça permet d'ouvrir des possibles, voilà, c'est de réouvrir des possibles qui ont été fermés. Se dire une forêt peut être un jardin, tiens, d'un seul coup, ça peut ouvrir les possibles de plein de façons. J'ai des agriculteurs qui vont du coup aller lire de l'anthropologie sur l'horticulture amazonienne. Parce que je dis, ah bah tiens, la forêt à l'Amazonie, machin. Donc ça permet de dessiner ensuite ouais, des pistes d'arpentage des problèmes qui sont complètement différentes. Et je crois qu'il y a vraiment une vertu là de la description qui est très politique, très puissante, un levier très puissant, quoi. D'accord.
Alors moi, merci Aurélien, parce que je prends un plaisir incroyable à t'écouter. Tu parles de choses un peu difficiles, mais avec beaucoup de clarté et de rigueur, donc c'est en fait tout à fait accessible, je trouve. Et chaque fois que tu parles, je me dis, ah ouais, mais c'est vrai, ça, j'avais pas pensé. Bon, le coup des oxymores, j'avais pas pensé. Donc non, c'est très fulgurant et ça m'intéresse, ça me fait vraiment réfléchir. Et j'aimerais te demander, est-ce que cette réflexion ne pourrait pas être un outil pour démasquer les hypocrisies? Parce que je ne cache pas que je suis un peu fatigué par un certain discours, notamment sur la permaculture, où chaque fois que je visite une exploitation en permaculture, je comprends au bout d'un moment que finalement, je suis face à des gens qui ont une belle représentation de leur existence, de leur rapport au monde, mais qui, in fine, ne sont pas dans le processus de production. Ils sont dans le processus de partage de convictions. Et souvent, ils en vivent, plus par les woofers et les formations que par les produits qu'ils produisent. Et donc, pour moi, il y a une forme d'hypocrisie à dire que ce mode de production peut être généralisable et permettre à la société de s'alimenter ou choses comme ça. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu fais, c'est de savoir, voilà, est-ce que tu peux utiliser ta réflexion pour décrypter des discours, quoi, plus que des pratiques.
Oui, absolument. Et oui, de fait, c'est une des finalités un peu... que je ne mets pas forcément en avant, mais il me semble que c'est aussi une façon d'essayer d'être attentif et vigilant à toutes les formes de simplification, dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire que à la fois le discours extrêmement simplificateur de la modernisation, c'est évident que ça va pas, ça pose toute une série de problèmes. Il a marché, mais il a marché moyennant. Il y a un article hyper intéressant d'un sociologue des sciences brésilien qui a montré que toutes les logiques d'innovation depuis la modernisation sont en fait du travail pour continuer à rendre possible la modernisation. C'est-à-dire, c'est une sorte de mouvement perpétuel, comme ça, comme un hamster qui tourne dans sa roue et qui innove pour continuer à pouvoir rendre possible son existence, quoi. Il y a une sorte comme ça de... Et par ailleurs, oui, sur la permaculture, moi je pense qu'il y a des choses extrêmement intéressantes à apprendre dans la permaculture, mais que le discours irénique qui consiste à mobiliser un imaginaire du jardin d'Éden, bah non, il ne fonctionne pas. Et de fait, c'est aussi en redécrivant les choses comme la possibilité de ne pas choisir, en fait. C'est-à-dire de ne pas avoir à choisir entre la production industrielle et le jardin d'Éden. Ce n'est pas le problème. C'est un faux problème, en fait, finalement. Et on en discutait avec Osvaldo aussi sur la permaculture. C'est-à-dire qu'il y a une transformation, finalement, depuis... ce que je trouve le plus intéressant, c'est finalement la méthode de conception, presque. Et c'est ce qui est le moins mis en valeur, quand bien même elle pose des problèmes. On en vient à mettre en avant des techniques simples et, finalement... À certains égards, on retrouve un processus assez proche de celui de la modernisation. C'est-à-dire, faites des buts et ça va bien se passer. Et on a une solution simple, un problème simple et une forme de certitude. On revient à cette question-là. Et je crois que c'est pour ça que j'ai mis la certitude au cœur du problème. C'est En fait, comment on arrive à tenir des discours et à tenir des histoires qui maintiennent de l'incertitude, qui, comme dit la philosophe des sciences Donna Haraway, stay with the trouble. Comment on arrive à garder le trouble et à pas trancher trop vite et faire des histoires trop grosses et trop simples. Voilà, je crois que c'est un des enjeux assez. Et on le retrouve dans la question de la généralisation des connaissances qui revient à chaque fois, en fait, à chaque présentation. Comment on arrive à simplifier, comment on arrive à rendre ça certain, bah, en fait, je pense qu'il faut peut-être accepter que ça ne le sera jamais.
Alors, on a pas mal de questions.
Pour en revenir aux oxymores, d'après toi, est-ce qu'il faut changer le terme agroforesterie ?
Je ne veux pas avoir un discours normatif là-dessus. Non, bah, il est intéressant, justement, il est un peu oxymorique dans une certaine mesure. Jusqu'à agriculture et forêt, jusqu'à... Bah, voilà, pour des politiques agricoles modernisatrices, c'est assez contradictoire. Donc non, il est intéressant. Et puis voilà, il a une histoire. Il a... Forêt jardinée, c'est intéressant aussi. Forêt jardin, il y en a plein d'autres. En fait.
Alors, bah, je te remercie beaucoup hein, pour ton travail et ta présentation. Elle m'intéresse d'autant plus que j'y trouve une articulation, moi, dans ma configuration là. Social et l'échange qu'on a pu avoir tout à l'heure. Donc une certaine complémentarité en fait entre nos deux approches. Par rapport à ton premier axe, je sais que tout ça est un travail très long. Il y a Jean-Pierre Daré, donc qui était notamment le créateur et l'initiateur du GERDAL, qui a écrit un livre qui me semblerait intéressant par rapport à ton travail. C'est Le racisme de l'intelligence dans le cadre de la modernisation agricole. Donc, si tu veux gagner un petit peu de temps sur ce premier axe, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà là-dessus. D'accord. Et très concrètes en plus. Donc, c'est intéressant.
Très bien. Ben, merci pour la référence. D'accord. Et ça, effectivement, j'avais pas fait d'arrêt.
Merci. Oui, j'avais une question, parce que donc tu as parlé de t'intéresser au dualisme et évidemment les déconstruire avec l'aide de l'étude de ces oxymores. J'avais une question, j'ai l'impression quand même que dans la manière dont tu imagines ta construction, il y a une dualité que peut-être il faut aussi à interroger, celle de en fait l'agroforesterie, agroécologie qui serait une rupture épistémologique. Donc, c'est-à-dire avec voilà, le passage non prescriptif, avec l'incertitude, avec voilà, de l'apprendre en faisant, etc. Quelque chose qui serait... Or, il me semble qu'il y a tout un courant en agroforesterie qui est très progressiviste, je ne sais pas si ça se dit, ou au contraire, ils ont cherché à rendre compatible l'agroforesterie avec les représentations et les modèles dominants, donc avec des arbres intraparcellaires très espacés pour faire passer les machines, des champs qui sont traités, enfin, avec un objectif principal qui serait le rendement, avec de voir l'arbre comme un auxiliaire de la culture, mais pas juste pour l'arbre en lui-même, etc. Et donc, je me demandais, est-ce que cette dimension-là, tu veux l'explorer aussi ? Parce que, voilà, il me semble qu'il n'y a pas que l'agroforesterie alternative et la modernisation sans arbres. Enfin, il y a tout un tas d'autres choses qui ne sont pas si duales que ça. Et,
ouais. Oui, ouais, absolument. Hein. C'est justement dans ce que j'appelle pratique des lisières, c'est qu'il y a des chemins qui sont assez tortueux, quoi. Et effectivement, il me semble qu'il y a des formes, et c'est aussi une manière de travailler ça, des formes d'agroécologie telles qu'elles s'institutionnalisent, qui sont assez solubles dans une épistémologie modernisatrice. Après, malgré tout, je pense que même si tu le fais pour vouloir laisser passer ton pull levé, si tu écartes tes arbres pour le... Malgré tout, tu plantes des arbres. Il y a des formes d'usage du territoire qui, quelque part, sont quand même beaucoup plus... répondent de façon, pour le dire clairement, répondent de façon malgré tout un peu plus pertinente que d'arracher des haies à la catastrophe écologique. Et, ouais. Ouais. Je suis d'accord. Ouais, ouais. Bah, pour moi, la rupture, elle est dans la mise en travail des catégories. Elle n'est pas dans la radicalité au sens, dans un sens de pureté critique. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment faire absolument l'inverse. C'est plutôt juste mettre en travail, questionner des distinctions qu'on a pu faire. Ensuite, effectivement, moi, mes terrains sont assez... j'ai pas de terrain en conventionnel, par exemple. Voilà. j'ai pas de terrain conventionnel, mais oui, ça serait une dimension à explorer pour, disons que là, c'est plutôt une façon de montrer le gradient, et ensuite, ouais, il y aurait plein de formes plus compositionnistes encore qui viennent rapprocher des choses qui ont l'air contradictoires d'une autre façon, mais ouais, ça, je vais pas avoir le temps de le faire, je pense pas trop.
Juste une petite remarque, Roger, bravo pour tout ce travail qui donne vraiment envie d'en lire plus et d'en apprendre plus. Et moi, j'étais très intéressé par rapport à la notion de pratique des lisières. Et ça m'a tout de suite fait réfléchir sur cette notion de lisière qui est effectivement donc la ligne de partage entre deux biotopes et qui, pour tous ceux qui travaillent sur la biodiversité, est la zone la plus riche. Et donc, je me suis dit, tiens, puisqu'on est un petit peu dans l'imaginaire, est-ce qu'il peut y avoir effectivement un corollaire avec ça? Et par rapport à la remarque qui était de dire que le travail sur ces oxymores, donc les choses qui effectivement sont en dualité, qui peuvent paraître en dualité, tout du moins, je trouve que c'était aussi un formidable outil, à la fois pour démasquer les hypocrisies, mais aussi pour accélérer et faire comprendre les transitions. Et c'est une forme c'est une façon de jeter des passerelles entre deux mondes.
Oui, tout à fait. Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième remarque. Oui, il me semble qu'en fait, c'est une dimension, c'est une voie entre les choses. Enfin, c'est comment créer un chemin entre d'apparents contraires. C'est quelque chose d'assez, qu'on retrouve dans le taoïsme, dans la pensée chinoise. Enfin, il y a cette idée du Tao, de la voie, qui ne choisit pas en fait entre des apparents contraires. C'est la première question. Ah oui, sur les cotones. Ouais, alors oui, il y a cette dimension qu'on va explorer avec Agnès, parce que le papier apparaît, c'est avec Agnès Sourisseau, que certains connaissent, qui travaille en Île-de-France, en Seine-et-Marne. Et on explore justement ce lien, c'est vraiment avec elle que cette formulation de lisière est apparue. Et ouais, on explore effectivement la dimension... la valorisation de l'écotone dans beaucoup de pratiques agroécologiques. Après, comme le disait Osvaldo, en regardant la littérature en écologie scientifique, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que le edge effect, il est pas toujours très intéressant au niveau biodiversité. Enfin, ça favorise, si je me souviens bien, des espèces assez généralistes. Enfin, c'est pas forcément aussi bon qu'on a tendance à le dire. En permaculture, favoriser les bordures, c'est un des principes. Et donc là, il y a une ambiguïté sur la lisière. Oui, elles sont existantes et inévitables. Oui. Après, c'est l'idée de les multiplier, qui, dans une logique de, il y a plus de, il y aurait plus de, les continuités de milieux sont aussi intéressantes en fait. Mais oui, bien sûr.
Oui, c'était pour dire que j'ai bien aimé aussi l'approche plus philosophique en appui des approches sociales que font le Gerdal, avec qui j'ai travaillé un petit peu d'ailleurs. Et parce que finalement, on a du mal, nous, au niveau pratique, à comprendre parfois l'opposition des représentations qu'il y a entre les agriculteurs qui font de l'agriculture à la PP ou à l'arrière-PP, parce qu'on l'a cité tout à l'heure, ce serait revenir à finalement, pas des choses nouvelles, mais l'agroforesterie, ça a existé, la polyculture, les petits systèmes, voilà. À l'opposition avec l'agriculture moderniste, voire le pilotage, l'agriculture pilotée, etc., avec les satellites, enfin, aller vraiment vers une agriculture presque, on n'a plus besoin de l'homme, puisqu'on aurait des voitures... autonomes, mais aussi des tracteurs autonomes. Et aux États-Unis, au Canada, il y a ça. Hein, il y a des rangées de moissonneuses-batteuses qui sont pilotées par satellite sans aucune personne dedans. Donc, ce qui m'intéresse, moi, dans les approches sociales et philosophiques, c'est justement d'essayer de faire comprendre à des agriculteurs qui voudraient être dans la transition que ce n'est pas une régression ou une trajectoire qui serait régressive et qui est justement... une alliance ou une coalition entre des pratiques, des savoir-faire qui sont ancestraux ou en tout cas de l'histoire récente, avec des techniques malgré tout modernes pour aller chercher du rendement, de la productivité et surtout de la valeur ajoutée, puisqu'on reste encore en France majoritairement sur des cultures de céréales, enfin de la culture primaire. On ne fait pas suffisamment de transformation et de valorisation et de valeur ajoutée peut-être dans les filières.
Et ce que je voulais justement approfondir avec vous, c'est pourquoi il y a ce blocage de représentation et pourquoi il y a ce blocage et cette pression aussi sociale dans les campagnes de se dire on ne veut pas passer pour les pecnos ou pour des gens un peu ahuris qui tentent des trucs. Quoi, parce que on peut parler de voilà, enfin, ça m'intéresse.
Merci pour cette question. Ouais, je pense que c'est un des enjeux aussi de mon travail, plus la partie historique. Et là, je m'inscris aussi vraiment dans la continuité du travail de Christophe Bonneuil, toute l'histoire environnementale et qui s'est intéressé à l'agriculture. Je crois que l'enjeu, c'est justement de trouver une manière de déconstruire ce qui a été construit, c'est-à-dire cette nécessité la nécessité avec laquelle a été construit le récit dominant. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une... toutes les ressources, la puissance de la modernisation et la puissance qu'elle a encore maintenant en termes de représentation, elle tient énormément à la puissance de ses alliés. C'est-à-dire qu'on a mis avec elle le progrès, la science, toute une série de mots avec des majuscules qui ont appuyé ce discours-là et qui en ont fait un rail. Il n'y a pas d'autre alternative, comme disait l'autre. Et ben là, je crois qu'on a construit un petit peu le même type de discours. Et du coup, je crois que ça passe par justement une fracturation de cette nécessité. Alors c'est assez compliqué, c'est pour ça que l'hypothèse des oxymores, elle vient un peu en appui à ça, c'est-à-dire de trouver des manières de dire bah non, en fait, on aurait pu faire autrement. On peut faire autrement. Il n'y a pas de nécessité à faire comme ça. Et ça, c'est très compliqué parce qu'il y a vraiment une puissance du récit linéaire par opposition à des récits un peu sinueux, un peu incertains. Et c'est la force psychologique, cette Dewey en parle très bien, la certitude, le discours qui s'appuie sur de la certitude et sur du progrès du linéaire, il a une puissance de conviction et une puissance à rassurer psychologiquement que n'a pas en fait l'autre discours. Donc pour trouver une désirabilité à des discours sinueux, complexes, etc., alors faut essayer d'explorer des ressources de curiosité, d'attention à la complexité. Mais en tout cas, je crois que ça revient à cette idée qu'il faut renoncer à la certitude d'un récit stable et rassurant. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question.
Je voulais justement apporter des interrogations sur ce que tu dis. On a souvent tendance, nous, dans nos métiers, à traiter la question agricole, modernité, complexité du regard. Je pense qu'elle est tout sauf qu'agricole, elle est purement humaine, pour le coup, et que la société d'urbanisation, l'industrialisation, l'artisanat subit exactement les mêmes principes de composantes, de simplification, de modernisation technique, de disparition de l'humain à la tâche, etc. Donc elle est tout sauf spécifiquement agricole. Et quand on explique ça parfois aussi au monde agricole, on les rassure aussi par rapport à ça. Donc on ouvre un espace de discussion qui ne les extrait pas de le vrai monde et l'agriculture, si tu veux, qu'on a tendance souvent à caricaturer un petit peu comme ça. Nous, dans les cercles, on le dit souvent d'ailleurs, tiens, ben, ça manque d'agriculteurs dans nos conférences. Ah ben, on n'avait pas les agriculteurs, c'est aussi des citoyens. On ne dit pas, tiens, ben, on n'avait pas les menuisiers. Aujourd'hui, tiens, ben on n'avait pas les instituteurs. Tu comprends? On a souvent, effectivement, nous, tendance dans nos métiers à mettre le bloc agricole et les autres. Il me semble que dans ce que vous avez abordé, cette simplification, cette problématique du retour en arrière de la configuration passéiste de l'agroécologie, enfin du regard imaginaire passéiste de l'agroécologie, qui n'est absolument pas, c'est évidemment pas mes convictions, elle pénètre toutes les couches de la société. On travaille, nous, sur des plans paysages à l'échelle des zones périurbaines, l'interpénétration rurale urbaine. Il y a des simplifications dramatiques, drastiques de la mise en place de l'aménagement sur des principes quasi similaires. Moins de temps de travail, des semblants de facilité, des recours... à des systèmes non pérennes mais efficaces dans le court terme, etc., etc. Donc je pense qu'il faut vraiment englober cette problématique à l'intérieur d'une société complète.
Oui, tout à fait. Enfin, quand je parlais du récit du progrès, c'est un récit qui a pris des formes particulières dans le monde agricole aussi parce que parce que c'est un monde où on compose directement avec du vivant, ce qui a probablement posé davantage de problèmes qu'ailleurs, parce que la ressaisie de l'agriculture par l'imaginaire industriel, elle a pris du temps, parce qu'en fait, ça implique de mettre de côté toute une série de phénomènes qui sautent aux yeux dès qu'on se retrouve dans un champ. Et c'est un travail assez complexe, je pense. Mais ouais, en fait, et c'est pour ça qu'on a tout le travail de l'histoire environnementale. Et justement, il y a un très très beau livre de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressos qui s'appelle L'événement anthropocène, dans lequel justement ils essaient de déconstruire à tous les niveaux l'évidence du récit du progrès. Et en fait, peut-être que c'est une stratégie aussi de pluraliser ça et de dire, comme vous disiez, en fait, vous n'êtes pas tout seul, agriculteur, à être confronté à cette simplification et à cette injonction à avancer dans cette direction. Il y a des textes assez incroyables. Je travaille sur un livre d'Albert Domolon, un agronome du début du XXe siècle, dans lequel il dit explicitement c'est une marche forcée de l'agronomie vers ça. C'est peut-être pas, il est même assez transparent, il dit c'est peut-être pas une bonne idée, ça va peut-être pas aller mieux, on va peut-être faire plein de souffrances, mais en même temps, c'est le progrès, il faut y aller, il n'y a pas le choix. Et donc, pluraliser ça à l'échelle de la société, je crois que effectivement, ça permet aux agriculteurs, peut-être quand on essaie de travailler avec eux là-dessus, de se sentir moins seuls, de ne pas être dans un truc où ils redeviennent les péquenots dont on leur a dit pendant 50 ans qu'il fallait qu'ils ne le soient plus, en plus. Donc,
oui, moi, je voulais revenir sur le processus de changement, là. En fait, et effectivement, pour les agriculteurs comme pour les autres, métier, en fait. Changer, ça suppose qu'on a un problème. Ça suppose que, quand même, on se pose des questions sur son exploitation, on n'est pas satisfait de ce qu'on fait sur son exploitation. Et je suis désolée, mais jusqu'à il y a peu, et même aujourd'hui d'ailleurs, il y a des agriculteurs qui n'ont pas de raison de changer. Aujourd'hui, la politique agricole commune, elle n'aide pas même les agriculteurs les masses financières qu'il y a dans le premier pilier. Perdissement, mais c'est pas ça qui va changer beaucoup de choses. Donc, je crois qu'il faut quand même avoir en tête que l'agriculteur, il est soumis à des injonctions contradictoires aussi, et il fait des choix en fonction de ça. L'aider à voir un peu au-delà, s'il se pose pas de questions sur son exploitation, ça va peut-être pas faire en sorte qu'il... Effectivement, il est interpellé par le bassin versant parce que il y a des problèmes de qualité d'eau, mais par ailleurs, il reçoit toujours les mêmes subventions de la PAC pour produire telle et telle culture. Enfin, ou en tout cas, pour il a pas tellement de raisons de remettre en question drastiquement le système d'exploitation pour faire un revenu. Il y a aussi tout ça, toute cette ambiance qui est quand même assez contradictoire, qui fait que moi, honnêtement, dans ma pratique professionnelle, je ne change pas tous les jours. Je n'ai pas tous les jours envie de progresser tout le temps. Enfin, on est dans une période de la vie où on n'a pas envie de changer. Il y a tout ça qui fait que, comme tout le monde, on change quand on a vraiment besoin de changer.
Merci.
Merci. Ce dessin-là, c'est quoi?